vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place. Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie-Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio Radio, À la claire ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com.
Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacle indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchezvoussurlesmac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant.
Spectacle en salle et plusieurs spectacles résument la programme
rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchezvoussurlesmac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant.
Lundi 13 décembre, c'est la dernière de la saison.
Déjà?
Oui, j'ai mis mon pull rouge, c'est malheureux, on peut pas voir avec les webcams cette semaine, mais on est dans l'esprit des fêtes, déjà.
Yes, joyeuse fête tout le monde, je vous le dis tout de suite, on va le dire à la fin de l'émission, si je suis convaincu, mais je vous le souhaite tout de suite, allons. À part ça, mon nom c'est Estelle, je vais me présenter tant qu'à ça.
On va dire joyeux Noël tout le long. Margot aussi, on est dans une atmosphère festive aujourd'hui.
Mais festive, on n'est pas beaucoup quand même, hein?
C'est pas un gros party de Noël.
C'est pas un gros party, hein?
Mais c'est quand les personnes importantes sont là.
On va pouvoir voir de la musique et en profiter. Donc aujourd'hui, on va parler de... Estelle, t'es allée voir Lune.
Oui, en fait, je suis allée voir un spectacle organisé par Lune, dans lequel il y a de nombreux artistes qui étaient là. Lune, c'est l'espèce de...
Le collectif.
Grande force de la nature qui organise à peu près chaque deux mois des spectacles au Quai des Brumes. J'étais là mercredi, on va parler d'ailleurs avec Élise Vendéel dans quelques instants.
Merveilleux. Et ensuite, moi, je vais vous parler d'un recueil, d'un essai plutôt, que j'ai lu ce week-end, qui s'intitule « Faire corps » de Véronique Côté et Martine Bécôté. C'est publié chez Atelier 10, une petite boutique que j'affectionne particulièrement. Donc, on commence déjà...
Oui, on est en train de faire les appels en ce moment pour parler avec Élise Vendéel, qui est l'une des organisatrices de Lune.
Wow! C'est merveilleux, j'adore.
Qu'est-ce que l'une des organisatrices de Lune?
Alors, Estelle, je n'arrive pas à appeler.
Faut que tu fasses le 9 avant.
Oui, j'ai fait le 9 avant.
Puis t'as fait le numéro?
Oui, j'ai fait le numéro.
Puis ça n'a pas marché?
Oui.
Ben écoute, dans ce cas-là, je peux parler un peu de Lune, puis après ça, on va mettre une toune, puis après ça...
On l'appelle,
tout simplement.
Tu peux venir m'aider parce que c'est la première fois que je
ben c'est ça, on se retrouve dans une situation un peu d'urgence en ce moment. Là, on fait de la radio de brousse.
Oui.
Mais sinon, je peux toujours commencer avec ma chronique.
Comme ça, simplement, oui.
Je me laisse l'honneur.
Parfait.
Donc... Comme je disais un peu plus tôt, cette fin de semaine, c'était pas très joli samedi, donc on en profite pour lire. C'était guéri. C'était le moment parfait de me jeter dans le dernier ouvrage imprimé chez Atelier 10. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui est de Véronique Côté et Martine Bécôté, qui s'intitule « Faire corps ». Je dois avouer m'être lancée dans cette lecture très naïvement. Je me promenais chez Atelier 10. Je me suis dit pourquoi pas choisir leur ouvrage le plus récent et faire une chronique sur le sujet.
Donc, pour ensoleiller ta journée grise.
Oui, c'est ce que je pensais, mais je ne me doutais pas à quel point l'essai allait venir toucher des cordes sensibles. Donc, pour cette raison, je pense que c'est quand même important de faire un petit avertissement. Certaines personnes peuvent être blessées par le sujet, puisque dans cette œuvre, les deux autrices se questionnent sur les rapports de domination homme-femme dans l'industrie de la prostitution. Donc, l'essai faire corps. Dès le début, les autrices affirment d'emblée qu'elles sont contre la prostitution. Il s'agit d'une œuvre hybride entre un texte d'opinion, une analyse de société. On entend beaucoup parler de ce débat entourant la prostitution. Puis dans l'œuvre, on aborde justement l'idée des deux camps, donc les pro-TDS et les abolitionnistes, les personnes en faveur ou en défaveur. Donc, une des deux autrices, Véronique Cloutier.
Non,
c'est pas du tout la même personne.
Elle a beaucoup de talent, mais pas celui-là.
C'est ça, on est très loin de là. Donc, Véronique Côté, dis-je, commence en mentionnant qu'elle n'est pas une spécialiste, qu'elle sait qu'elle s'attaque à une question épineuse, et même qu'elle a voulu plusieurs fois renoncer à écrire cet essai-là. On comprend rapidement pourquoi en lisant. Donc, c'est une question épineuse, comme on le sait. Et c'est un ouvrage qui est très petit en nombre de pages et quand même assez lourd en contenu.
Il fait combien de pages?
Une centaine de pages. Okay. Et comme je disais, ça m'a pris 3 jours pour les lire, environ une trentaine de pages par jour, un petit peu plus. Mais c'est ça, c'est un sujet qui est assez prenant. Et puis, il faut dire aussi que la seconde autrice, donc Martine B. Côté, est particulièrement touchée par ce sujet-là puisqu'elle a travaillé auprès de victimes d'exploitation sexuelle. Donc, sa vision des travailleuses du sexe est bien évidemment par sa formation teintée, justement à cause du travail communautaire qu'elle a pu faire. Donc, les deux autrices s'expriment à tour de rôle dans l'œuvre. Ces différents aspects liés à la prostitution, mais font toujours dans le respect et la bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup admiré par rapport.
On n'est pas là pour accuser les gens qui font la prostitution. On n'est pas là pour bâcher les travailleurs du sexe. Là.
Pas du tout. C'est certain que d'emblée, justement, l'opinion est assez tranchée, mais ça demeure un débat, ça demeure qu'il y a une ouverture, puis elles sont conscientes de plusieurs choses qui sont liées justement... au travail du sexe. Puis il y a énormément d'explications puis de statistiques qui viennent appuyer leur point de vue. Souvent, on entend le débat, puis les gens sont comme « moi, je suis contre, moi, je suis pour des raisons qui sont plus ou moins légitimes. »
Souvent, des raisons qui sont très morales, c'est juste « oh non, mais le sexe, c'est pas correct, on devrait pas aller là-dedans », au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe avec les humains qui sont derrière ça, tu sais.
Exactement. Puis, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est toujours dans la bienveillance, puis c'est vraiment ultimement pour assurer une protection. C'est dans un but de s'assurer que les personnes qui sont dans cette industrie-là soient le mieux encadrées possible, tu sais, qu'ils soient le mieux encadrées puis le mieux protégées, justement. Donc, ce qui est aussi intéressant que j'ai appris en lisant, c'est que grâce à cette série de recherches-là, elle a aussi, Véronique Côté, a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « La paix des femmes », donc qui est aussi ancré dans le même sujet, mais qui est romancé à ce moment-là. Puis, je trouve que c'est vraiment pertinent parce qu'on voit l'espèce de réflexion autour, on voit beaucoup la documentation, on voit beaucoup les pistes de recherche qu'elle a pu élaborer, sur lesquelles elle a pu se promener pour en venir à écrire et sa pièce de théâtre et ce recueil qui est cet essai plutôt. Donc, comme je disais un peu plus tôt, pour l'aspect de la forme, les textes sont écrits d'une façon très fluide. Elles ont des références. On apprend aussi des statistiques un peu à travers le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment pertinent. Encore là, j'adore la forme des recueils chez Atelier 10. On dirait que je fais de la publicité, mais c'est vrai que c'est très agréable. C'est des courts textes. Puis c'est toujours... Les illustrations aussi sont magnifiques. Donc, c'est aussi intéressant de voir que la personne qui a fait les illustrations travaille aussi à la mise en scène, travaille aussi pour le spectacle, donc la pièce de théâtre qui va être diffusée en janvier. Donc, grosso modo, je dirais que la plus belle leçon que j'ai pu tirer de cet ouvrage, puis de ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est que selon les deux autrices, au bout du compte, les pro-travailleuses du sexe puis les abolitionnistes, comme elles disent, veulent une seule et même chose, soit protéger les femmes. Donc, je trouve que c'est une très belle leçon, puis que peu importe de quel côté on se situe, je pense qu'on peut toujours s'entendre sur ce qui est essentiellement une nécessité, justement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, la pièce de théâtre « La paix des femmes » ainsi que l'essai « Faire corps » sont disponibles chez Atelier 10 dès maintenant. Puis la pièce de théâtre sera diffusée au théâtre « La Bordée » dès janvier 2022. Donc, ça s'en vient.
Pourquoi t'as eu envie de nous parler de cet ouvrage?
Sincèrement, je me suis dit, c'est le plus récent. Puis moi, j'adore aller me promener chez Atelier 10, puis c'est toujours des belles découvertes. Puis habituellement, ça va toujours vers la même thématique. Il y a beaucoup de féministes, il y a beaucoup d'exploration. Donc, je me suis dit naïvement que ça allait être... On entend beaucoup le discours avec le féminisme et les travailleuses du sexe. Donc, je pensais que ça allait plus dans cette lignée-là. Et en commençant rapidement, j'ai vu, je pense pas que ces femmes-là soient moins féministes, mais c'est définitivement un point de vue qu'on entend moins dans les médias, puis qui est tout aussi valide, là, n'importe quelle discussion.
Comme tu dis, le but premier de ce livre-là, c'est de parler de comment on peut protéger ces femmes-là, puis il y a plusieurs façons, plusieurs écoles de pensée de le faire, puis je pense que c'est intéressant d'avoir des idées venant de plusieurs écoles de pensée. Je pense même qu'on peut trouver les meilleures solutions aussi pour ce problème-là, qui est un problème qui existe depuis le début des temps, mais j'ai l'impression que dans le féminisme surtout, on commence à l'étudier peut-être avec plus de nuances depuis seulement là, quelques années, quelques décennies. Là.
Oui, absolument. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment, puis que encore là, qui était une idée que j'avais préconçue, de me dire que parfois... Il peut y avoir des situations, à tout le moins, où les femmes bénéficient de tout. C'est-à-dire que les femmes qui font ce travail-là peuvent garder l'ensemble de leurs gains ou quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a plusieurs situations où c'est pas du tout le cas, puis il y a des exceptions à ça, puis il y a beaucoup un milieu aussi avec le proxénétisme qui est un peu moins... qui est un peu méconnu, mais qui est très présent, même à Montréal, même
oui,
en région.
Ce que tu m'expliquais, dans le fond, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. Lorsqu'on parle, par exemple, de drogue, de vente de drogue, on le sait, on l'imagine bien qu'il y a certaines gangs, par exemple, certains regroupements qui vont avoir certains quartiers, puis tu peux pas aller vendre tes produits dans un quartier si c'est déjà contrôlé par quelqu'un d'autre, sinon tu peux avoir des conséquences. Puis c'est un peu ce que tu m'avais expliqué tout à l'heure en parlant du livre, qu'il y a justement des femmes qui sont indépendantes, mais qui, justement, peut-être parce qu'ils sont dans le mauvais quartier, peut-être parce qu'ils sont quelque part qui est protégé, un endroit qui appartient, guillemets, à des groupes de proxénètes, ben ça peut avoir des conséquences, tu sais.
Absolument. Puis, on parle beaucoup aussi, j'ai l'impression encore là dans les médias, c'est un sujet qui est très, c'est très épineux, mais on parle souvent des gens qui sont, des personnes qui sont contraintes à devenir travailleuses du sexe ou être dans le milieu de la prostitution sans que ce soit un choix. Mais dans cette œuvre-là, elle s'est entretenue avec des femmes qui l'ont fait par choix, puis on voit qu'il y a quand même des nuances, puis il y a quand même de l'intimidation qui peut venir de l'extérieur, des proxénètes. Donc, c'est vraiment une... Sur le site d'Atelier 10, ils disent il y a un... Pas un avertissement, là, mais plutôt une publicité qui dit que c'est un livre qui va vraiment venir susciter les conversations pour des mois à venir, voire des années, puis je pense que c'est la façon de résumer cette œuvre-là. C'est vrai que ça vient, ça provoque une réflexion, ça provoque des discussions, puis je pense que c'est une bonne chose d'en faire.
Oui, puis c'est tellement un sujet, comme tu dis, qui est épineux, qui est sensible, qui est tabou, parce qu'on n'en parle vraiment pas si souvent que ça, si c'est pas de façon très très frileuse, puis dire « Ah non, la prostitution, c'est pas correct », puis là, « Oh mon Dieu, cette célébrité-là a été prise la main dans le sac avec une prostituée, puis là, on la juge sur la place publique, puis tu sais, alors qu'on a besoin, je pense, d'avoir des conversations qui sont extrêmement honnêtes sur ces sujets-là, puis je pense que juste faire une prohibition totale, mettre ça sous le tapis puis dire on n'en parle pas, ça va régler aucun problème. Je trouve ça super important, en fait, que tu apportes ce livre-là aujourd'hui.
Absolument. Puis, ce que je trouvais aussi, c'est que c'est justement, peu importe de quel côté on se trouve dans ce débat-là ou dans cette réflexion-là, ben il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une autre facette qu'on peut découvrir. Donc, je suggère fortement.
Et dernière question, qu'est-ce que tu as pensé de l'apport de l'une par rapport à l'autre? Est-ce qu'elles se complétaient?
Elles prennent la parole à tour de rôle. C'est d'accord. Sûr que Véronique Côté est l'investigatrice de cette œuvre-là. Son amie vient collaborer avec elle. Elle a aussi décidé d'écrire la pièce de théâtre, comme je disais un peu parallèlement, c'est elle qui fait l'écriture à 100% de la pièce de théâtre. C'est d'ailleurs la première fois chez... J'ai encore long, on dirait que je fais de la publicité, mais c'est d'ailleurs la première fois chez cette maison d'édition qu'une autrice publie parallèlement deux œuvres qui sortent simultanément. Donc, je trouvais que c'est super intéressant. Mais oui, l'apport de son amie, de la deuxième autrice, et c'est vraiment chaque chapitre l'une prend la parole, ensuite c'est l'autre à tour de rôle. Donc je trouve que cet apport-là, justement, est très équilibré dans l'œuvre.
OK, ben, très bien. Alors, on peut se laisser avec une petite courte pause musicale.
Petite courte.
C'est un pléonasme. Voilà, je fais des figures de style en régie.
Bravo.
Non, et puis, on se retrouve avec toi, Estelle, et puis ton entrevue. On va essayer de régler le problème dont je n'arrive pas à résoudre. On fait une petite courte.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Oui, qu'est-ce qu'on écoute là?
Avec Fides, qui est au palmarès ce mois-ci en révélation hip-hop. Et puis la chanson s'appelle Sans rien.
Un peu. Il me dit ramène les sous autour de moi. Quelques animaux, des hyènes, des loups. Pour moi tout est inégal, pour lui c'est le tout idéal. Je m'en vais écrire Nimbo pendant que le loup n'y est pas. Il me dit ben oui viens-t'en ma belle. Relax c'est pas de stress. Détends-toi, mets-toi à l'aise, défais ta petite tresse. Il me dit regarde bien chérie comment t'es plus belle qu'elle. On viendrait riche si on transformait ton nom en URL. La petite te prise avec envie de soumission. Dans ses gènes oui elle peut l'encaisser l'oppression. Maman lui dit c'est pas bien, la voisine dit y'a rien là. Sur internet voit 100 fois pire alors se dit pourquoi pas. So elle part sa fleur dans le fond d'un basement crasse. La honte la pèse, la pauvre lui pète la face. Je m'en vais prendre des forces, endurcir mon écorce. Sans rien se balade, de lit en lit. Connaît pas l'amour mais veut le partager à trois. Elle suit le lion dans sa cour et l'aide à ravager sa proie. En méthamphétamine, à codéine, elle lean back. Plus d'inhibition, plus de trac, dis-lui qu'elle est ta petite garce. Comme dans les films, sans aucun filtre, elle triple X. Au nom de la liberté, chante l'hymne du premier fixe. Du L entre corps et l'esprit, ma petite sœur nubile. Triple W, juvénile, et les monsieur jubile. Il veut une poupée, du chiffon, m'amener. Jouer dans les bas-fonds avec quelques gentils garçons. Mon petit chaperon, loup te mange tout rond. Vas-y, essaie d'oublier, essaie avec l'herbe et loup blanc. T'apprendras à aimer sans les larmes, les coups. Ils sont bas, les couilles, vas-y compte les sous. T'aimes plus mon joual, sale, non? Sauf quand tombe le soir, ouais. Sans rien se balade, de lit en lit.
Ah, Fides! Je l'aime tellement.
Allô?
Allô?
Allô, allô?
Oui, hey, on va faire l'entrevue tout de suite. Finalement, on a réalisé que Élise est avec nous depuis le début de l'émission. Elle écoute tout ce qui se passe, mais n'avait juste pas été en mesure de parler avec Margot, d'où le malentendu ou le non-entendu, en fait, de la part de tout le monde ici présent, qui nous entend depuis tantôt, se dire « Mais moi, c'est bon, je vous entends, là. » Je suis là, tu sais. Allô, Élise Van Dehay, qui est une des organisatrices qui fait partie du collectif de Lune. Justement, j'ai été voir mercredi dernier l'édition 4.2 de Lune au Quai des Brumes. Et Élise, j'ai envie de commencer juste par te poser la question. C'est quoi ça, Lune? Qu'est-ce?
Lune, c'est une belle bébite, on va dire ça comme ça. Mais Lune existe depuis 2017. C'est en soi un laboratoire de création, un lieu de rencontre pour les artistes femmes, trans et non-binaires à venir collaborer et faire des performances éphémères si elle le souhaite, mais aussi ça, des fois ça crée des collaborations qui durent plus longtemps et finalement des coups de cœur entre artistes. Et alors c'est aussi multidisciplinaire, c'est important de le mentionner. On a musique, on a de la littérature, on a des fois aussi de la danse, de l'art en direct. À chaque édition aussi, on a une nouvelle artiste visuelle qui fait un nouveau visuel finalement pour chaque événement. Okay. En gros, c'est un peu ça, Lune.
Oui, et puis là, évidemment, pour peut-être préciser, toi, t'étais pas sur scène mercredi
non,
dernier, t'étais
ça,
dans la
est...
salle. T'étais là, puis les organisatrices, vous étiez là, mais vous faisiez pas le show, en fait. Ton rôle, exactement, c'est quoi?
Donc, en fait, on est une équipe de 5 dans Lune. Mélissa, Elmer et moi-même sommes les cofondatrices de Lune, qui a été fondée en 2017 au Quai des Brumes, qui est notre maison depuis. Ensuite, Eve Landry, de son blog Les Fausses Vérités, et Andrea Mercier, DJ Prométhéal, ils sont venus nous rejoindre en la deuxième saison pour nous aider sur le volet littéraire et le volet DJ. Puis, l'année passée, il y a Garance Chartier, qui est maintenant à Québec, qui est venue nous aider pour la programmation, faire des partenariats et tout, donc aller chercher d'autres liens, finalement, parce que l'idée, c'est de faire des liens, d'essayer de ratisser large entre les différentes communautés artistiques de Montréal et, soit dit en passant, les différents styles qui cohabitent au Québec.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de styles différents. J'ai la liste ici que je vais vous lire de tous les artistes qui étaient présents. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'il y a quand même une couple d'annons là-dessus. Mercredi dernier, il y avait La Carotte Polaire, Jessica Ruby, DJ Promethea, DJ Mifloat, Bagay, Rose Bush, Laurie, Tania Veilleux, Gomez, Salomé... j'ai mal écrit son nom. Tu sais, quand tu t'écris trop vite, là. Voilà. Et il y avait également Emmanuel Brousseau, qui était plus pour le volet lecture, que lui, des textes qui m'ont... absolument dévasté.
Il y avait aussi Laurie.
Oui, c'est très possible. J'ai écrit ça rapidement tantôt. Oui,
t'es bonne.
Voilà, ok, j'essaie de me souvenir. Il me semble que c'est cette personne-là. Beaucoup de gens. Puis là, je nomme beaucoup de gens. C'était pas 8 numéros différents. Il y a des gens qui sont ensemble. J'avais parlé entre autres à Rose Bush pendant le spectacle, qui a comme rencontré Bagay de même, et qui s'était jamais vraiment parlé avant de faire leur numéro ensemble. Comment est-ce que vous choisissez ces artistes-là, puis comment vous les matchez ensemble?
OK. Donc ça, c'est une très bonne question pertinente. On fait pas un processus de sélection dans l'équipe de Lune. Il n'y a pas d'affaire de comme celle-là, cette personne-là. Genre, on reçoit pas, mettons, des CV artistiques, puis là, on choisit les meilleurs.
On peut pas t'envoyer nos démos, là.
Non, c'est ça. On y va sur une base volontaire, comme Mélissa a dit si bien. Hein. On avait d'ailleurs une conversation là-dessus cette semaine. Donc, l'une, c'est une participation sur base volontaire. Les gens, ils vont nous écrire et ils vont nous dire « Hey, j'aimerais ça ». Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de créer des matchs avec les bases, les personnes qui se manifestent et qui ont envie de jouer. T'sais, c'est vrai que des fois, nous, on va « reach out » à des gens aussi. Mais tu sais, c'est vraiment juste parce qu'on se dit « Ah, cette personne-là, ça fait longtemps qu'elle nous a dit qu'elle voulait jouer, donc on va lui écrire, on va lui proposer cette fois-ci. T'sais, donc, on fait comme une liste de personnes qui nous écrivent, puis nous disent, des fois, c'est sûr que ça marche pas, il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent, t'sais, fait que c'est un peu, des fois, c'est une affaire circonstancielle, qu'on est comme, OK, là, ça fonctionne, les dates fonctionnent pour cette personne-là, puis ça fonctionnait pas pour une autre. T'sais. Des fois, c'est juste une affaire de disponibilité, pourquoi un artiste n'est pas sur la scène et il y en a un autre qui l'est. Alors, c'est pour ça. Donc, on les mix and match. Après ça, on écoute un peu les gens qui font. Puis là, on essaie de dire, OK, ben ça serait intéressant de matcher les deux genres de ces personnes-là. Tu sais, par exemple, le match de Tania Ana Gomez avec Laurie et Salomé Perli. On trouvait ça très intéressant parce que ils font trois styles complètement différents. Mais finalement, ça fonctionnait très bien ensemble. Donc, c'est un peu ça tu veux l'excitation de Lune, on sait jamais à quoi s'attendre. Même nous qui bouquons puis qu'on fait la programmation, on est toujours OK, mais qu'est-ce que ça va donner? Puis là, ça fait partie des surprises qu'on découvre le soir même du spectacle.
Puis ces mélanges-là, ça marche-tu tout le temps?
De quoi?
Est-ce que ces mélanges-là, est-ce que sur scène, ça marche tout le temps ou est-ce que des fois, c'est plus difficile?
Ben, je trouve que ça a toujours bien fonctionné. Après ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être moins naturelles pour certains artistes parce qu'il y a une certaine prise de risque. Fait que, des fois, je dirais qu'il y a des moments où est-ce que les artistes sont moins dans leur zone de confort, mais c'est aussi ça l'une. On essaie de faire, de donner un endroit où est-ce que les artistes peuvent essayer des nouvelles choses. Donc, d'où l'idée du laboratoire qui est bien importante pour Louis-Thi.
Puis oui, évidemment, tu parlais tantôt là, de mix qui fonctionne ensemble, là, qui a visiblement bien marché. J'étais pas là, malheureusement, pour le Lune 4.1, mais la semaine dernière, on parlait du gala des Gamics. Il y avait un numéro, justement, c'était Rosario Caméléon avec Kaya Hawkes et DJ Baby Bleu. Puis en fouillant sa page Facebook, je me suis rendu compte que leur première rencontre, les trois ensemble, ben c'était à Lune. Fait que oui. C'est la preuve qu'il y a des rencontres, que finalement, ça va super bien. Puis des gens qui se découvrent des affinités, qui font des collaborations ensemble.
Absolument. Oui, c'est beau à voir. C'est ça le côté qui continue et tout. Là, il y a d'autres exemples qui ne viennent pas malheureusement en tête vite comme ça. Là. Mais avant la pandémie, là, il y avait eu plusieurs situations comme ça où est-ce qu'il y avait des artistes qui avaient collaboré encore ensemble par la suite. Donc, ouais.
Oui, mais là, tu parles de la pandémie. Évidemment que ça a été difficile de faire Lune dans les 18 mois avant. Déjà, le Lune 4.1, là, c'était quasiment c'était une bénédiction. Il y a eu un Lune secret aussi cet été. Mais ouais, j'étais là. J'étais VIP à cette Lune-là. C'est là que j'ai découvert Lune. Oui, mais il y a aussi d'autres activités. Vous faites entre autres des listes de lecture chaque mois de toutes les affaires cool qui sont sorties au Québec par des artistes qui sont justement des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires, des gens de la diversité de genre. En fait, tant qu'on n'est pas un homme cis, on peut vibrer c'est avec ça. Lune. Mettons que, bon, moi je suis pas une artiste dans la vie, je vous le dis tout de suite, mais mettons que là que je voulais participer à Lune puis que j'avais de l'art à proposer, comment me garoche là-dedans?
Ben, tu nous écris sur notre Instagram, Lune au pluriel, L-U-N-E-F-M-T-L, sur Instagram, ou sur notre page Facebook, Lune/Festival Equinox, pas de E. Alors, vous m'écrivez, ou si vous nous connaissez, vous connaissez des membres de l'équipe, donc Mélissa Elmer, moi-même, Eve Landry, Garance Chartier, vous pouvez nous écrire aussi, si vous nous connaissez, un minimum, amis Facebook, en privé, puis nous, après ça, on vous répond, puis on est bien smart.
Oui. Puis là, faites bien attention, c'est pas la Eve Landry qui joue dans Une T9. C'est une autre Eve Landry qui fait aussi du théâtre et qui écrit des livres et qui est devenue ma vraiment bonne amie, en fait, pendant la pandémie. Elle, en fait, oui. Elle avait écrit, d'ailleurs, juste pour petite histoire, là. Moi, début janvier 2020, je me dis, là, 2020, c'est mon année. Je vais dire oui à toutes les propositions que je reçois. Et là, il y a Eve Landry qui m'écrit, justement, à qui j'avais parlé une fois, là, pour une entrevue, puis qui m'avait demandé de lire un texte à un spectacle de Lune, plus précisément au Festival Equinox. On a glissé un mot par rapport à la page Facebook. Heureusement, la pandémie est arrivée, j'ai pas eu à le faire, mais c'était ce genre d'occasion où je me suis fait dire, tu sais, faut que je lise un texte devant des gens, puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je lise comme genre de texte. Fait que là, je pose la question à Eve, quel genre de texte que tu veux, puis là, me donne à la fois la meilleure et la pire réponse possible, c'est-à-dire ah non, mais là, tu fais, tu sais, c'est ce que tu veux, là, c'est comme tu veux, tu sais. Ça m'aidait pas pantoute, fait que j'étais quand même un peu contente quand la pandémie est arrivée. Cela dit, je vous jure que j'ai fait aucune sorcellerie pour que ça arrive. Oui. C'est pas de ma faute. J'ai juste... Voilà.
On est très carte blanche avec les artistes. C'est très important pour nous de laisser le plus de liberté possible, tu sais. Puis, c'est ça, on essaie de le moins possible se mêler, tu sais, du processus créatif. Ce qu'on dit, on va dire aux artistes, maintenant, post-pandémie, on fait moins de numéros qu'avant. Il y a 3 numéros sur la scène et 2 moments de lecture. Donc, en ce moment, on a eu une lectrice qui est venue. Mais là, on essaie d'avoir 2 lectrices pour le prochain au mois de février, donc le 16 février. Alors, ouais, c'est ça. Donc, on essaie de moins possible se mêler, tu sais, de la direction artistique au niveau des numéros à l'intérieur du numéro même. Ce qu'on dit, on dit jouer, on vous donne 20 minutes. Vous avez 20 minutes sur la scène. Puis pour les lectures, on dit que souvent, les lectures se font pas sur la scène. Les lectures à Lune au Quai des Brumes se font à côté, finalement, de la régie, donc sur le plancher des vaches, avec le reste des les spectateurs et spectatrices, hein, parce que même si Lune, c'est pas... on n'invite pas, finalement, d'artistes qui se considèrent comme étant des hommes cis à performer, ben tout le monde est le bienvenu en tant que spectateur et spectatrice. C'est quand même important à mentionner, là.
Oui, c'est vraiment important. C'est pas juste pour la diversité. Genre, si t'es un gars pis tu veux découvrir de la bonne musique, ben c'est vraiment une bonne place. Puis justement, le fait que ce soit beaucoup des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires, ben des fois ça permet peut-être de découvrir des artistes qui ont peut-être moins de facilité à passer par les canaux plus réguliers, parce que c'est un problème. Puis j'imagine que c'est un peu aussi ce qui est derrière la décision là, de l'une de mettre de l'avant ces artistes-là.
Oui, oui, c'est important. C'est tout le côté de l'émergence. T'sais, on trouve ça important de donner de la place à des gens qui auraient peut-être plus de difficultés à aller chercher ça de leur côté en étant seul. T'sais. D'où l'idée de rencontrer des artistes. Puis des fois, on a eu beaucoup de numéros que c'était des premières fois. T'sais, des artistes qui n'avaient fait déjà aucun spectacle ou des lectrices qui n'avaient jamais lu aussi. Donc, c'est des auteurs, autrices, tu sais, qui seraient venus. Donc, pour nous, ça, on a une place spéciale dans notre cœur aussi pour faire de la place à ces personnes-là, à ces artistes-là qui n'ont pas d'expérience de scène. Puis, souvent, ce qu'on va faire, c'est on va demander aux gens qui participent, c'est quoi ton fantasme, tu sais, de performance, avec qui est quel genre d'artiste, qu'est-ce que tu aimerais jouer, est-ce que tu as un instrument, tu sais, que tu t'es dit, j'aimerais toujours, j'ai voulu jouer du hautbois, toute ma vie. J'aimerais qu'il y ait du hautbois qui accompagne ma chanson. Ben, on va essayer de trouver quelqu'un qui joue du hautbois. Là.
Oui, ben là, la dernière fois, il y avait de la mini-harpe, cette espèce de petit instrument là, qui se tient quasiment. En fait, c'est Rosebush qui en joue, puis m'expliquait que tu tiens ça quasiment comme un chien, là, que tu colles ta joue dessus, puis tu commences à jouer. Puis même les personnes qui étaient assises en avant de moi avaient l'air d'être profondément intriguées par cet instrument. Donc, 16 février, ça va être la prochaine édition 4.3 de Lune. Encore une fois, ça va être au Quai des Brumes.
Oui.
Qui est la maison, je pense. Ben oui. Ça se passe bien. Puis en plus, c'est une belle salle. C'est un beau spot. L'IW à côté, il est excellent. Pour y être allé plusieurs fois dans les heures où c'est tout ce qui est ouvert. Ça fait un job.
C'est vraiment, on est super contents d'être au Quai des Brumes. T'sais, ils nous ont donné, ils nous ont fait confiance dès le début. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'importance des petites salles de spectacle, les bars et spectacles. Tu sais, c'est, en tout cas, c'est beaucoup dans nos esprits, je pense, post la pandémie. Ça l'était avant aussi, mais là, on se rend compte à quel point c'est fragile comme équilibre à tout ça. Puis, on a perdu des joueurs importants sur cette scène-là. Donc, pour nous, ça fait partie, c'est de redonner. T'sais. Puis maintenant, Lune, on fonctionne par vente de billets maintenant. Donc, on invite les gens à aller sur nos pages de médias sociaux puis suivre les liens pour les achats sur le point de vente.com. Alors, pour nos billets dans le futur. Mais on peut payer à la porte encore, mais c'est sûr que maintenant, il y a quand même une certaine... Maintenant, c'est 100 personnes aussi, le Quai des Brumes. Hein. C'est pas encore capacité maximale, même si on est très... chanceux, chanceuse de pouvoir être rendu à ce nombre-là.
Oui, et puis écoute, le Noël s'en vient, puis bon, j'imagine que les billets ne sont pas en vente d'ici Noël pour le 16 février, mais quand même, si vous cherchez des cadeaux, vous n'avez pas envie de faire plus de pollution, acheter des nouvelles affaires, acheter des billets de spectacle, c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour les artistes que vous aimez beaucoup, puis pour les salles de spectacle et pour toutes les personnes du milieu culturel. C'est un cadeau pour tout le monde gagne quand vous achetez des billets de spectacle. Donc, achetez des billets de spectacle, allez voir Lune, moi je vais sûrement y être le 16 février prochain.
Et moi donc. J'ai acheté mes billets d'excellent. J'ai absolument... c'est une découverte pour moi. Je vais être de la partie le 16 février, c'est assuré.
Merci!
Merci beaucoup, Élise Venn-Dehay, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Allez écouter ça. Grandes solitudes des femmes sauvages, c'est bien ça?
Donc,
tu dis tous les mots dans l'ordre, parfait. C'est long comme titre un peu.
Je voulais être sûr de tout avoir dit. Dans le bon ordre.
Merci beaucoup et
merci de nous avoir donné ce temps-là.
Ben oui, au revoir. Et sur ce, Margot,
qu'est-ce qu'on écoute?
Qu'est-ce qu'on va écouter ici même?
On peut écouter. J'ai vu que du coup, il y avait la Carotte Polaire. C'est bien ça, mercredi?
Oui, qui a joué, qui était là mercredi.
Eh bien, on peut s'écouter ça. Fuir les fugues, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, ben, je pense que c'est sur son dernier album.
Oui.
Et ben, Célibataire endurci.
Oui.
Ah, j'adore la Carotte. On y va. Ça.
Allons-y.
Allez, c'est parti.
Quelque part dans l'immensité du vide, quelque part, dans l'infiniment petit, la raison de se laisser aller à plus finir, l'interrupteur pour déclencher les soupirs, je ne le trouve pas dans le noir, j'ai besoin de toi pour y voir clair.
qui ne se démue plus. Au bout de mes doigts, pour éclairer les recoins inconnus, mes secrets, mes plus sombres désirs, les délits délibérés de mes délires, je ne les trouve pas dans le noir. J'ai besoin de toi pour y voir clair. Tu m'as fait voir mes couleurs primaires, des peintures sauvages, œuvres d'arts éphémères. Toujours à fuir les fugueurs, jamais de bonne augure. Tu m'as fait voir des idées légendaires, mais nos instants s'éclipsent en un éclat. Toujours à fuir les fugueurs, jamais de bonne augure.
Donc, nous sommes de retour à Dans les arts. Et Margot, tu vas t'entretenir avec Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.
Tout à fait. Allô, Michel?
Bonjour, vous allez bien? Merci. Très content d'être avec vous.
Ben, nous aussi, on est contents, on est très contentes. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on attendait cette entrevue. Et puis, on est contentes de vous avoir avec nous. Alors, du coup, vous êtes président général de Culture pour tous. Puis le but ici de vous avoir avec nous, c'est de présenter le Lab culturel. Donc juste en quelques mots, pour présenter un petit peu Culture pour tous, c'est un organisme qui est à but non lucratif, qui se donne pour mission de faire reconnaître les arts et la culture comme facteur de sensibilisation et puis d'éducation. Tout en favorisant la participation des citoyens et des citoyennes, surtout à Montréal. Et puis, le Lab culturel, lui, est un dispositif au sein de Culture pour tous qui tente de mettre en avant des initiatives en lien avec les arts numériques. Et puis, du coup, qui est, depuis 2014, fait des appels à projets pour mettre en avant des initiatives montréalaises et québécoises. Et puis, cette année, pour la sixième cohorte, les projets avaient pour but commun de créer un impact social par le biais des arts et de la culture. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ma définition et puis ma description est bonne, Michel?
Vraiment, vraiment excellente. Et j'ajouterais seulement que l'ensemble des actions de Culture pour tous visent vraiment l'ensemble du Québec, avec notamment les Journées de la culture, pour ne nommer que cette activité. Il y a plein d'autres programmes et activités également qui met vraiment la sensibilisation et la démocratisation de la culture au cœur de nos enjeux.
D'accord. Et donc, pour cette sixième année, il y a six porteuses et porteurs de projets. Peut-être que je trouvais ça intéressant aussi de les nommer, ces projets-là, parce qu'il me semble que c'est des projets qui sont qui touchent différentes parties de notre environnement social, à travers justement le biais des arrêts de la culture, comme je l'ai dit. Donc il y a un projet qui est une audio description dans un musée. Un autre projet de trousse cinématographique. Un autre projet qui s'appelle Cri du cœur, point sur les i, pour être entendu, et qui vise à donner de la parole à des proches aidants et à des proches aidantes. Il y a aussi un projet de médiation culturelle, un projet par rapport au cirque, et puis enfin un projet de plateforme culturelle et numérique pour la génération de nos aînés. Donc des projets vraiment divers et qui semblent toucher différents environnements sociaux. Puis ma première question, c'était comment ces projets-là sont amenés à voir le jour?
Mais ces projets-là germent dans la tête des promoteurs depuis souvent très longtemps, depuis plusieurs années. Et grâce à l'appel à projets où on a eu plus de 77, je ne m'abuse, soumissions donc pour pouvoir faire partie du Lab cette année, les projets ont été choisis, ont été sélectionnés en lien avec leur visée d'impact social sur le territoire. En ce moment, 6 des 7 projets touche l'ensemble du Québec. Un seul couvre une partie un peu plus précise sur le territoire, mais le but de ces projets-là étant de plus en plus, avec les années, de viser un impact social, parce que vous savez, hein, tout l'aspect numérique a vraiment pris une tangente différente au fil des années. Il y a maintenant 6 ans, quand on a lancé le Lab pour la première fois, on était vraiment dans la recherche d'outils numériques. Maintenant, on est beaucoup plus dans la force de pensée numérique et comment l'outil ne deviendra pas l'objectif, mais plutôt l'outil justement pour atteindre des visées telles que l'impact social sur les territoires. Donc, c'est ainsi que les projets de cette année s'inscrivent vraiment dans cette trajectoire-là, où les territoires qui vont voir arriver ces projets-là vont se voir transformer complètement. Parce que si on prend l'exemple de Dominique Malaccord, par exemple, Cri du cœur, point sur les i, pour être entendu, qui vise les proches aidants, et vous allez voir, ce projet-là est vraiment fabuleux parce qu'il est dans la création de réseaux pour les proches aidants et dans la création d'écoute également envers ces proches aidants qui ont besoin d'appui pour pouvoir continuer leur travail. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer un peu l'étendue, bien sûr, des projets de cette année, mais surtout la portée qu'ils auront sur le territoire.
D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, quel est le support en fait concret qu'offre le Lab culturel à ces artistes-là ou à ces meneurs et meneuses de projet?
C'est un cadre d'accompagnement, un cadre de formation et de réseautage qui est offert à l'ensemble des promoteurs, des porteurs de projets, des porteuses et porteurs de projets. Donc, pendant plusieurs mois, ils sont encore ensemble pour s'entraider avec des formations qui visent l'ensemble du groupe, mais également du coaching privé, c'est-à-dire par projet, qui permet d'aller encore plus loin selon les besoins de chacun des promoteurs de projets.